Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une proposition par mail de la part de l'association Macarons Nézois, celle de découvrir un roman. Évidemment, ma curiosité est piquée et j'accepte de plonger dans le livre de Mayol Thur au titre provocateur de « Pute finale ». Récemment paru au Québec, les pages reliées tentent leur entrée sur notre territoire. Je ne sais rien de l'auteur qui tient à ne pas révéler quoi que ce soit de sa vie privée. En revanche, je suis prévenue de la teneur un peu sombre de l'ouvrage qui s'appuie sur des thématiques sensibles d'actualité telles que le féminisme, le transgenre, le wokisme ou encore le radicalisme en tout genre. Pute finale n'est pas facile à lire. La transcription du langage oral est volontairement utilisée et ainsi on se retrouve à décoder des phrases dans lesquelles il manque toutes les fins de mots, les « e » étant remplacés par des apostrophes. Mais pas que. J'ai eu bien du mal à trouver l'envie d'en poursuivre la lecture, enfin jusqu'à la moitié du bouquin, où là je me suis prise au jeu de ce roman d'anticipation dystopique. J'espère que vous trouverez en vous l'audace d'oser le changement de lecture et de prendre le temps de partager un morceau de la vie de Benjamin. Peu importe où il se trouve, malgré ses idées rétrogrades et tranchées sur bien des sujets, Benjamin essaie, autant que faire se peut, de rester le plus neutre possible lorsqu'il s'adresse à quelqu'un. Ni il, ni elle, on ne sait jamais. Benjamin ne voudrait froisser personne, d'autant qu'aujourd'hui on ne sait pas d'avance si dire « bonjour monsieur » à un type n'est pas une insulte à son ressenti identitaire. Comment se retrouver dans cette drôle de société où parce que quelqu'un se sent plus proche d'une girafe que d'un humain, il faudrait que tout le monde le devine? Dans cette époque où la contradiction n'est plus admise et parce que l'on a un avis différent de celui de notre interlocuteur, nous passons pour un « truc-phobe », « homophobe », « transphobe », « islamophobe », « féminiphobe ». Eh bien, Benjamin, lui, va payer le fait qu'essayant de ménager les susceptibilités de chacun, il n'affirme aucune position. Sous prétexte qu'il ne dit pas « elle » en parlant de son collègue en pleine crise identitaire, se sentant d'un coup plus femme que homme, il perd son job et à 60 ans se retrouve au chômage. Mais merde, fallait dire « madame » à un homme maintenant, pour autant qu'il le demande. Je dis bien « un homme ». Même pas quelqu'un qui avait vaguement l'air d'une femme, juste un homme tout simple, sans rien d'une femme, je le répète, même pas la sape, même pas un peu de rimmel, même pas une perruque, rien du tout. Et puis quoi? Simple conséquence du droit de choisir son sexe en l'absence de toute opération chirurgicale, droit consacré en France dès 2016, s'il vous plaît. Si l'officier d'état civil reconnaît le changement de sexe sur simple demande de l'intéressé, si l'État lui-même donc, en vertu de cette décision, est tenu de le reconnaître, a fortiori le simple citoyen. La démédicalisation du changement d'identité sexuelle rimerait bientôt avec la pénalisation des récalcitrants à cette nouveauté conceptuelle. Mais j'ai toujours essayé d'avoir un langage aussi neutre que possible, pour pas heurter mon entourage, ni ma liberté. Ne pas être offensant. Ah ça, les circonvolutions, je savais y faire. Aucune n'avait de secret pour moi. J'en usais autant qu'il fallait pour pas désigner les collègues selon leur genre. Impossible de m'accuser de mégenrage après ça. J'ai finalement été suspectée de dissimuler ma transphobie. Dis, je suis quoi pour toi, Benjamin, à part une personne? Tu peux me le dire? Qu'on me fait dans le bureau de la direction? J'espérais encore, fou que j'étais, qu'on ferait semblant de me croire si je prétendais ne pas voir où mon collègue, enfin ma collègue, voulait en venir. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux être d'autre pour moi? Eh bien, ce serait possible qu'une personne comme toi et une personne comme moi en soient amis, non? T'as pas de préjugés qui t'empêchent d'avoir une amitié avec moi, hein? Pas du tout. C'est quoi cette accusation? Là-dessus, Fatouma. Personne t'accuse de quoi que ce soit, Benjamin. On veut juste clarifier certaines choses, des bruits qui courent dans la rédaction sur ton attitude depuis que Jean-Baptiste est devenu Anna. Le fait que tu m'appelles jamais Anna, par exemple? J'appelle jamais personne par son prénom. C'est encore mon droit, non? Puis, au fil des pages qui se tournent, un événement lui permet de retrouver une amie de croisade des temps anciens. Ils avaient eu une aventure à l'époque, et la belle Mélanie fait toujours rêver notre Benjamin. Par le plus grand des hasards auxquels il ne s'attendait pas, voilà qu'ils se retrouvent tous les deux embarqués dans une histoire de cœur. Elle aime le franc-parler de Benjamin et elle en a besoin pour l'aider à surmonter les vagues qu'on lui oppose dans l'élan commercial de la vente de son application qui vise à éliminer les agressions faites aux femmes. Mais voilà, Mélanie tombe dans l'excès de ses croyances et finit par croire que la solution à la violence que subissent les femmes est la déféminisation. Elle trouve des moyens pour que le poil lui pousse sous le nez et sur le menton. Elle met tout en œuvre pour que sa musculature se développe. Elle harangue à qui veut bien l'entendre que le salut du sexe dit faible viendra lorsque les femmes ne seront plus femmes. Il faut dire adieu aux silhouettes sexy, puisque les mâles ne savent pas y résister. Puisque ces êtres primitifs se laissent aller à des mots et à des actes dégradants. Mais jusqu'où peut bien aller ce nouveau courant ? Aussi nombreuses qu'elles soient, les femmes déféminisées, leur nombre stagne. Pire, de plus en plus finissent par se reféminiser. Paradoxalement, le phénomène semble stagner à mesure qu'il gagne en acceptabilité. Il est à craindre que la déféminisation se banalise, qu'on en avale mollement l'idée sans la mettre en pratique ou si peu, qu'elle devienne un phénomène de niche réservé aux puristes, qu'elle perde, en définitive, sa radicalité. Comme toujours, avec les évolutions sociétales, ça commence par d'innocents appels à la tolérance. L'homosexualité, par exemple. Peut-être pas tout le monde, mais la plupart aujourd'hui trouvent ça bien normal d'être tolérant avec les homosexuels dans un pays comme la France. Mais ça fait pas 5 minutes qu'elle en est arrivée là, cette pauvre France. Du haut de leur firmament, des ayatollahs en collant rose se saisissent de leur arc-en-ciel et la criblent de flèches haineuses, viennent expliquer qu'on doit mettre les hétéros aux os. Autrement dit, que ce serait pas mal d'en voir moins, des hétéros, qu'on aimerait bien les voir en cage, qu'il faudrait rééduquer la population à coups de pubs inclusives et de séries Netflix, lui faire rentrer dans le crâne à cette conne que l'hétérosexualité, c'est pas la norme, jusqu'à ce que ce soit plus la norme, jusqu'à ce que les hétéros ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Au pire, une minorité archaïque qu'on tolérera si elle se tient sage. Si elle fait pas de prosélytisme, si elle se contente de contempler la société pliée aux désidérata de la nouvelle élite. C'est ça qu'on voit se passer maintenant avec le déféminitisme. S'agit pas de demander en toute innocence un peu de tolérance envers les femmes qui n'ont pas envie d'être féminines. Non, là, c'est même plus qu'on veut s'affranchir de la féminité, on veut l'abattre, où qu'elle se trouve. Les féministes avaient commencé par demander le droit de pas s'épiler. Leur fille, des féministes, impose l'obligation d'avoir du poil au sein. Et comme toujours, les extrêmes débordent les extrêmes. La fille qui exhibe une grosse barbe est applaudie le matin et lapidée le soir pour des hanches trop féminines. Mayeultur, ici, dénonce l'escalade à outrance et à vitesse grand V de l'acceptation sans condition de la différence et des minorités qui doivent devenir la généralité. Je vous avais prévenu. Mais essayez tout de même d'entrer dans cet essai provocateur, mais sans préjugés et avec une ouverture d'esprit de la taille de l'univers.